les frères et sœurs, bonsoir à vous qui nous rejoignez sur le net, que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une lecture dans Psaume 119, verset 73. Psaume 119, 73. « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié, car ta bonté, que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Je médite sur tes ordonnances. Amen. » Alors, vous savez, après mûre réflexion, j'en suis arrivé à penser que c'est vraiment difficile de faire le bien. Depuis le 1er juin 68, jour où je me suis converti, vous voyez que bientôt on va fêter mon anniversaire de conversion, eh bien, je me suis toujours posé la question, mais quelle est la meilleure façon d'aider les gens ? Quand j'ai vu Raphaël qui priait pour les malades et quand j'ai vu tous ces miracles, moi-même, je me suis mis à prier pour les malades. Le troisième jour après ma conversion, j'ai prié pour un homme qui était paralytique, qui avait la maladie de Parkinson. Vous avez souvent entendu ce témoignage. Et c'était le premier miracle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était formidable. Mais tout de suite, j'ai réalisé, mais il y a tant de malades. Il y a tant de malades. Tant de malades. Et comme dit la chanson de Michel Fugain, je n'aurais pas le temps, pas le temps, même s'il fallait que je me consacre qu'aux malades. Et en 15 ans, pour passer à autre chose, nous avons donné tant de nourriture à des pauvres, mais à des milliers, des gens qui avaient vu leur culture ravagée par les inondations, l'année d'après par la sécheresse, et puis on a pu les... Il y a eu un village de 800 personnes qu'on a nourri pendant plus d'un an. C'est extraordinaire, c'est formidable, mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont faim. Il y a encore des gens qui ont faim. On a donné tant de vêtements. Mais ils s'usent. Là encore, Nicolas est venu il y a quelques jours. On lui a donné encore plein de vêtements. Mais tout ça, ça s'use. On a aidé à la construction de tant d'églises. Mais vous voyez, en 15 ans, là-bas, ça s'use. Les toits, tout ça. Il faut changer les tôles. Faut changer ci, faut changer ça. Ça s'use. Et ici en France, combien de gens nous avons aidés? Je dis que le gouvernement devrait nous donner de l'argent pour ça. D'avoir aidé des filles et des garçons qui se droguaient, qui volaient pour pouvoir se droguer, etc., etc., qui maintenant sont des bons chrétiens, des bons pères de famille, des bonnes mères de famille, devraient nous aider, nous féliciter, nous décorer. Ben non. Enfin, on sait bien que de toute façon, même les gens que nous avons aidés ne sont pas satisfaits toujours, hein. Si vous leur donnez une maison, ils se demandent pourquoi vous ne leur donnez pas un château. Si vous leur donnez d'habiter dans un château, ils le trouvent trop petit ou trop grand. Ou, enfin bref, c'est difficile de faire le bien. C'est impossible d'aider les gens de cette façon-là. Ou bien l'aide n'est pas définitive, ou bien les gens ne sont pas contents parce qu'ils s'attendent à avoir encore davantage. Alors comment les aider? Je crois que le meilleur moyen, c'est de les aider à se débrouiller tout seuls sans avoir besoin de quelqu'un. Et ce moyen, c'est de leur faire connaître Dieu, qui donne de l'intelligence, qui donne la foi et qui donne de la force. En rencontrant Jésus, j'ai rencontré sa puissance, j'ai rencontré son intelligence, j'ai rencontré sa lumière. Et à ceux à qui je l'ai donné et qui l'ont reçu, parce que je l'ai donné à beaucoup, mais il y en a quand même pas mal qui ne l'ont pas reçu, hein, parce que ce n'est pas parce que vous donnez un cadeau que les gens le prennent, hein, c'est comme ça. En tout cas, tous ceux qui l'ont reçu, ils ont pu affronter leurs difficultés sans avoir besoin de moi. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ça, c'est formidable. En partageant l'évangile, on leur donne l'élément essentiel, un élément spirituel qui se grave en eux. Et nous sommes donc appelés à donner l'essentiel. Pas des bricoles, bien sûr, C'est pas des bricoles de nourrir des gens. Quand on voit des gens affamés, on va quand même pas leur dire, bon ben, on va vous prêcher Jésus, puis après, que Dieu vous bénisse, bonne rentrée. On peut pas faire ça. On est bien obligé de mettre la main à la poche, de faire quelque chose, de créer une association, d'ameuter tout le monde pour qu'il y ait des dons qui soient faits, pour qu'on puisse aider les pauvres. Et ça, on l'a fait. L'ami soutient la compta, et Stéphane, tout ça, ils savent combien, des milliers d'euros. Et puis des fois, j'ai fait des cadeaux un peu plus inutiles. Par exemple, j'ai donné deux Rolex dans ma vie à des amis. C'est quand même pas rien de donner une Rolex, hein? J'étais pas obligé. Et puis quand on voit comment ils me traitent aujourd'hui. Enfin, c'est difficile de faire le bien. C'est difficile de faire le bien. S'ils veulent me les rendre à les Rolex, je serais tout content. Je donnerai à quelqu'un d'autre. Enfin, je dis ça comme ça, mais bof. Je sais ce que c'est que d'avoir des difficultés. Et j'ai toujours affronté les difficultés avec l'aide de mon sauveur. De mon sauveur qui vit au ciel, mais de mon sauveur aussi qui vit dans les uns et les autres. Nous partageons, nous communiquons, ainsi nous connaissons les besoins des uns et des autres, et nous pouvons aider et nous pouvons être aidés. Mais moi aussi, j'ai passé par des moments de détresse, et à tel point que maintenant, il me suffit de regarder quelqu'un pour savoir à peu près quelle sorte de détresse elle a vécue ou elle est en train de vivre. Toutes ces détresses, ça s'inscrit sur le visage. Ça s'inscrit sur le visage. Alors, vous savez, aujourd'hui, j'ai fini par comprendre une chose. C'est que si j'avais tous les pouvoirs, le ciel ne me permettrait pas de vous enlever vos difficultés. C'est ça que je suis arrivé à comprendre. C'est vous qui devez faire des efforts, apprendre, vous exercer, parce que ça va vous servir pour l'éternité. On est là pour ça. Si vous attendez que quelqu'un fasse tout à votre place, vous ne grandirez jamais. Et puis, si vous rencontrez quelqu'un qui est sage et qui est intelligent selon Dieu, il vous aidera pas toute votre vie. Parce qu'il sait une chose, il sait que ce n'est pas la bonne façon de vous aider. Bien au contraire. Un être sage, intelligent, il vous donnera des lumières, c'est-à-dire il vous donnera des méthodes, il vous donnera des connaissances, il vous montrera des exemples. Bon, s'il faut donner un petit coup de pouce, je me rappelle de cette veuve qui avait 9 enfants. C'était en Afrique, à Ouagadougou, puis là-bas, c'est terrible, une femme qui tombe veuve comme ça. Il y a des frangins du mort, ils viennent, ils raflent tout dans la maison, hein. Cette pauvre femme, elle n'avait plus rien pour nourrir ses gamins. Alors, je lui dis, mais il vous faudrait combien pour démarrer quelque chose? C'était tellement peu. C'était, je crois, 1 000 francs français, quelque chose. C'était 3 fois rien. On pouvait. 150 euros. À l'époque, c'était des francs. Elle s'est acheté un petit réchaud, elle s'est acheté une petite espèce de casserole, et puis elle a de l'huile, des pommes de terre, et puis elle a vendu des pommes de terre au bord de la route. Elle a créé. Des gens étaient contents de la voir s'en sortir comme ça. Et puis d'autres veuves sont venues. On dit, mais comment tu fais, etc. Et puis elle a créé une association de 2000 veuves. C'est pas extraordinaire, ça? C'est fantastique. C'est fantastique. Et elle se débrouille. Alors, c'est comme ça, je pense qu'il faut donner des lumières, des méthodes, de la connaissance, puis un petit coup de pouce de temps en temps. Mais s'ils attendent que ça soit que vous. Ben, c'est fichu, ils vont pas grandir. Et ils attendront toujours que c'est vous qui appliquiez les choses, alors que vous devez attendre que eux, ils appliquent les choses. Parce que, en faisant comme ça, c'est vous qui grandissez, c'est vous qui vous renforcez, et ça, c'est la vraie évolution. Quand je dis vous, je dis les gens qui sont pauvres, les gens qui ont des difficultés. Certains ont dit, mais vous n'aidez pas les pauvres de la communauté. Quels pauvres? Il n'y a pas de pauvres dans la communauté. Ils mangent tous, ils sont tous logés, ils sont tous nourris, ils manquent de rien. S'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils ne travaillent pas trop bien. Mais les humains sont comme ça. Ils sont habitués à compter que sur les éléments matériels, qu'on va les aider, une aide qui va venir de. Quelque chose de l'extérieur de. Si on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais on en fait des assistés, puis moi je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas été élevé comme ça. En Suisse, il n'y a personne qui est comme ça, sauf les clochards. Mais c'est des Français. Non, pardon, c'est pas vrai. On ne peut pas être désassisté. Et on voit que de plus en plus maintenant, les gens ils comptent sur une aide qui vient de l'extérieur d'eux, sur des machines, sur des appareils, sur des médicaments. Ils pensent jamais à utiliser les possibilités dont le Créateur les a dotées. Dieu nous a dotés, nous a donné tant de choses. Et quand ils rencontrent un serviteur de Dieu, ben ils ont la même attitude que quand ils rencontrent Dieu. C'est-à-dire, ils s'attendent à ce que ce soit. Voilà. Alors, au lieu d'apprendre à développer, grâce à l'enseignement, leur faculté spirituelle, eh ben, ils vont compter sur le serviteur de Dieu pour leur trouver des solutions, pour les rendre heureux, pour les rendre riches, et voilà. Dans un serviteur de Dieu, ils vont chercher quoi? Ben, ils vont chercher un dépanneur. Mais c'est pas normal. Un serviteur de Dieu, c'est pas un dépanneur. Quelqu'un qui va porter leur fardeau. Hein? Un petit peu, oui, mais quand même. Quand même. On n'est pas des bourricots, non? Serviteur de Dieu. Est-ce que je suis appelé à être un bourricot? Je crois pas. Les humains de nos jours ont développé une drôle de mentalité. Alors, il nous faut regarder à Dieu. Comment il fait Dieu? Comment il fait? Eh bien, il secoue les gens, comme je vous ai dit la dernière fois. Et il a le pouvoir de guérir tout le monde. Et pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas? Il fait des miracles, je le sais, j'en ai vu. Mais ce que je vois surtout, parce qu'un miracle c'est quelque chose d'exceptionnel, ça n'arrive pas tout le temps, sinon ce ne serait pas un miracle. D'accord? Qu'est-ce que je vois surtout? C'est que Dieu donne aux hommes, aux femmes, les moyens de vaincre leur maladie. Il leur a donné l'intelligence et puis ils arrivent à. Ils cherchent, ils voient des. Ils cherchent et ils trouvent. Qui c'est qu'ils cherchent? Ben les gens intelligents. Vous savez, si Dieu guérissait toujours toutes les maladies, moi je vous le dis, hein, les humains feraient alors encore plus d'excès et plus de folie en sachant que Dieu, allait, de toute façon, il va les guérir. Alors bon. Alors je vois que Dieu envoie parfois des fardeaux afin de nous apprendre à devenir plus forts et plus résistants. Maintenant, un disciple de Jésus. Il ne doit pas souhaiter que sa vie soit facile, ni pour lui, ni même pour ses proches, si ce que je viens de vous dire est vrai. Les parents en général, ils souhaitent que leurs enfants, pour que pour leurs enfants tout soit facile. Alors, c'était tellement difficile pour moi, je souhaite que ça soit plus facile pour eux. C'est vrai que. Au sortir de la guerre, les gens ont tellement souffert, ils ont voulu vraiment, n'est-ce pas, que leurs enfants souffrent moins qu'eux. Et puis, ça n'a quand même pas été facile. Alors, ces gens, quand ils sont devenus des adultes, ils ont dit, oh, moi j'ai souffert avec mes parents, tout ça, c'était dur. Donc, je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Alors, de plus en plus, on a des gens qui sont de moins en moins forts parce que, ben. On veut toujours rendre les choses plus faciles, l'opulence, on veut qu'ils aient le succès. Alors ils leur font tout et ils croient que c'est par amour qu'ils font ça. Eh bien, mes frères et sœurs, moi je vous dis que c'est de l'amour bébête. Pardonnez-moi si vous êtes choqués, mais écoutez-moi quand même. Regardez toutes ces bonnes femmes aujourd'hui qui savent même pas faire la cuisine. Mais c'est pourquoi? Parce que leur mère leur a jamais appris. Pourquoi? Ah ben parce que enfin, faut que ma fille fasse des études. Hein? Alors moi j'y fais, j'épluche les pommes de terre, je fais tout. Puis faut, vous savez maintenant les jeunes, il faut qu'ils s'amusent quand même, faut pas. Et puis quand elle m'aide à faire la cuisine, c'est la catastrophe, elle casse tout. Puis c'est long, puis ceci, puis cela. Donc je préfère me faire moi-même. C'est de l'amour bébête. C'est pas la faute de ces femmes aujourd'hui, c'est la faute de leurs parents avec un amour bébête. Ils leur ont jamais appris à éplucher les patates. Ça fait rigoler Rachel. Dans notre communauté, on a eu, je dis bien au passé, on a eu une femme comme ça. Un jour, on était à table, et puis il y a quelqu'un qui lui dit, tu pourrais me passer des patates? Il dit, quelle patate? Il n'y a pas de patate aujourd'hui. Alors, la personne qui lui demande lui dit, puis ça, c'est quoi? Ben, c'est de la purée. Il dit, la purée, j'ai fait avec quoi? Ah bon, c'est fait avec des patates? Vous ne savez même pas que la purée, ça se faisait avec des patates? La faute à qui? À sa maman. qui faisait tout pour elle, par amour. Mais pardonnez-moi, mes frères et sœurs, c'est un amour bébête, dégoulinant de bons sentiments, c'est vrai, c'est mignon, tout ça, mais ça en fait une fille parfaitement incapable. Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous, qui sommes ses enfants? Non. Et c'est pourquoi il nous met du boulot dans les pattes. Vous comprenez? C'est normal. Alors ne souhaitez pas que votre vie soit trop facile. Ne demandez pas à Dieu de tout simplifier. Bien sûr qu'on a cette tendance, Seigneur, enlève les cailloux de mon chemin. Ça, combien de fois je l'ai prié? Alors vous peut-être vous pensez que je suis sévère, mais je ne le suis pas. Je dis seulement que les parents doivent tout faire pour que leurs enfants deviennent des bienfaiteurs de l'humanité. C'est ça la vérité. Et pour qu'ils deviennent des bienfaiteurs de l'humanité, ben, il faut les éduquer. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il nous éduque. Il décide par quelle expérience il va nous faire passer pour nous conduire jusqu'au point où nous allons pouvoir devenir des bienfaiteurs de l'humanité. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Alors il arrive que Dieu nous envoie des drôles de trucs, des maladies, des ennemis, des traîtres, des opprobres, des félons, enfin bon. Peu importe. Ce qui est important, c'est que celui qui a bien compris, alors il va aller loin, très loin, et tellement loin qu'il ne se rappellera même plus, il n'aura même plus le souvenir de ses souffrances et tout ça, ça passera, c'est un moment, c'est rien, c'est pas ça, ça va passer. À côté de l'éternité, c'est rien du tout. Et dans l'éternité, sur terre, vous allez acquérir un caractère qui fera de vous des régnants dans l'éternité, et non pas simplement des grouillots de service en train de balayer les marchands en or du palais de Dieu. Les parents, ils aiment leurs enfants, mais que deviendront ces enfants si les parents leur épargnent toutes les difficultés? Ils vont devenir des abrutis. Des abrutis. Voilà, c'est tout. Des abrutis. Le rôle d'un vrai serviteur de Dieu, c'est de vous rendre fort, quelles que soient les épreuves par lesquelles vous passez. Alors bien sûr, un vrai serviteur de Dieu, il va aider les gens. Bien sûr, c'est normal. Mais pas toujours. Pas toujours. Un vrai serviteur de Dieu, il va surtout leur montrer un idéal plus élevé pour leur propre vie. Et il va leur donner envie d'atteindre cet idéal. Et puis, il va leur montrer comment faire pour atteindre cet idéal, et ça va leur donner la possibilité de résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Voilà comment c'est un véritable serviteur de Dieu. Voilà comment c'est un véritable papa, une véritable maman. Voilà comment est Dieu, notre Père Céleste. C'est comme ça. Dans le monde, les gens sont de plus en plus immatures, et ils foncent chez la diseuse de Bonaventure, sur l'horoscope à la fin du journal. Il y en a dans tous les journaux. Hein, personne ne les lit, hein, mais je me demande pourquoi il y en a toujours quand même. Hein. Et puis, voilà, pour résoudre quoi? C'est toujours amour, santé, argent. Vous avez remarqué, c'est toujours ça. Hein, leur problème, numéro un. Et puis alors, il y en a, ils veulent aussi être exorcisés, désenvoûtés, parce que c'est pas de leur faute s'ils sont comme ça, c'est parce que quelqu'un leur a acheté un sort. Ah, voilà, c'est bien. Des fois, ça arrive, mais c'est très rare quand même. Il ne faut pas charrier non plus. Hein. Et chez les chrétiens, c'est pareil. Ils vont trouver le prophète. Moi, je me rappelle, on était avec Nicolas et puis mon ami Marc Rosa à Abidjan, à l'hôtel Ivoire. On avait loué là, enfin, c'était Abraham Gadji qui avait loué la piscine, pas la piscine là, comment on appelle ça, la patinoire. C'était géant, c'était un stade. C'était un stade. Plein. Mais alors, il y avait une petite pièce sur le côté pendant qu'on prêchait, tout ça. Il y avait une petite pièce sur le côté, là. Et moi, j'avais pas fait. C'est Marc qui me dit, mais t'as vu ça? Il y avait des centaines de gens qui faisaient la queue pour aller voir la prophétesse. C'était la prophétesse Dorcas. Une prophétesse formidable, au demeurant. C'est vrai. Mais ils faisaient la queue comme les gens qui font la queue pour aller voir Madame Irma avec la boule de cristal. Et c'était des chrétiens. Ils voulaient. Alors, bien sûr, elle a toujours. Une puissance, c'était extraordinaire. Alors il y avait des gens qui étaient véritablement envoûtés, elle les désenvoûtait, puis voilà, ils sortaient, ils étaient délivrés, c'était formidable. Mais comme ces chrétiens-là n'avaient aucune force personnelle, ben au premier problème, ils étaient de nouveau envoûtés, il fallait qu'ils reviennent. Et vous voyez toujours les mêmes qui reviennent toujours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait été chez un pasteur, c'était une convention de Pâques. Je raconte ça pour nos amis d'Internet. Alors, j'étais le principal orateur, donc je passais en dernier. Il y avait trois orateurs devant moi, et les trois ont fait un appel pour la délivrance. Alors, on a vu des gens s'approcher, une quinzaine, et ils sont tous tombés par terre, à se rouler, à pousser des cris, puis le service d'ordre les a pris, les a emportés dans une petite pièce derrière, on entendait tout ça, bon. Puis au bout d'un moment, on chantait, ils revenaient, ces gens se prenaient place dans leur chaire, sur leur place. Et puis le deuxième pasteur arrivait, et puis à la fin de sa prédication, il refaisait un appel, et c'était les mêmes qui se levaient. Vous vous rappelez? Trois fois de suite comme ça. Moi j'ai dit, je ne veux pas vous voir, vous, hein. Vous êtes déjà venu trois fois, là, ça va, ça suffit. Vous vous rappelez? Faut arrêter. Qu'est-ce que c'est ce cirque? Mais qu'est-ce que c'est ce cirque? Moi je dis que les prophètes qui font ça, ils entretiennent l'infantilisme chez les gens. Avec moi, ça ne marche pas comme ça. Apprenez à vous servir vous-même des clés que je vous donne. Ça fait des années. Comptez sur les grandes vérités que je vous donne depuis toutes ces années. Acceptez-les. Vous en avez plein à Internet. Vous avez au moins, je ne sais plus, 800, 900 prédications. Renforcez-vous avec ça. Vivifiez ces promesses en vous-même, dans votre cœur. Nourrissez-les. Et je vous garantis, je vous promets au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous verrez des résultats. Je vais simplement, moi, vous donner des armes pour que vous deveniez intelligent, pour que vous deveniez puissant, pour que vous deveniez invincible. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Écoutez ça. Quand allez-vous comprendre que Dieu veut que vous appreniez à vous débrouiller tout seul? C'est ça que Dieu veut vous faire comprendre à vous, mais je sais que dans la communauté ici, vous êtes fort, vous êtes. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent nous écouter et qui sont encore dans une telle faiblesse. Alors je ne suis pas désolé d'avoir peut-être détruit certaines de vos illusions. C'est pour la vérité, c'est pour Jésus et c'est pour votre bien que je l'ai fait. Alors je vais prier afin que vous réécoutiez ce message et que vous vous preniez en main au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que vous vous débrouillez tout seul avec votre Dieu. Et vous allez voir des miracles. Et vous allez pouvoir vous réjouir. Et puis vous allez en voir un deuxième, un troisième. Et puis à la fin, les gens viendront vers vous pour que vous priez pour eux afin qu'ils aient des miracles. Et c'est là qu'il faudra faire attention que vous ne deveniez pas un gourou qu'on suit partout parce qu'il fait des miracles. Il faudra que vous leur enseigniez aussi à eux afin qu'ils se débrouillent tout seuls. Amen. Seigneur Jésus, sois béni pour cette petite prédication, cette petite pensée. Je te prie qu'elle bénisse chacun et chacune et que nous puissions chacun et chacune de ceux qui écoutent là prendre notre vie en main et nous débrouiller avec ton aide, Père, dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit qui est en moi, le même que celui qui vit dans chacun de tes enfants, Seigneur, fais qu'ils s'en rendent compte et qu'ils se mettent en marche avec toi. Merci, Jésus. Amen.
Amen. Amen.